Avant de passer à Pierre-Yves, une mise à jour qu'on est en train de faire en Californie, à San Bruno, au sud de San Francisco. La conférence de presse, d'ailleurs, qui a commencé il y a quelques instants. Le chef de la police de San Bruno, Ed Barberini, vient de confirmer qu'il y a 4 victimes. 4 victimes au siège social de YouTube au 1000 avenue Cherry à San Bruno. Ça comprend d'ailleurs, parmi les 4 personnes qui sont décédées, donc l'agresseur, c'est-à-dire une femme qui aurait retourné l'arme qu'elle possédait contre elle. Alors, il y aurait eu 3 morts plus l'agresseur qui s'est donné la mort. C'est ce qu'on peut croire comprendre dans ce point de presse qui se déroule en ce moment près de San Francisco à San Bruno. Pierre-Yves, c'était l'entrée en bourse aujourd'hui de Spotify. Prix initial $165.90 et le titre a clôturé officiellement à 148,99.
Oui, c'est une entreprise extrêmement difficile à valoriser parce que on est en perte. Hein? On perd plus d'1 milliard d'euros par année. Donc, il y a beaucoup de pertes financières. Mais on s'accroche à la valeur future. On s'accroche à comment l'entreprise pourrait générer des revenus. Alors, la question, Paul, c'est combien de gens sur la planète sont prêts à payer pour de la musique? Et combien sont prêts à payer plus cher qu'actuellement pour de la musique? Parce que présentement, la marge brute est positive, mais dès qu'on inclut les frais de recherche et développement, les frais financiers, les frais d'administration et de vente, on tombe fortement dans le négatif. Donc, il y a 2 solutions. Augmenter drastiquement le nombre d'abonnés payants, pas les gratuits, pas l'ado qui profite du service gratuitement ou l'adulte, ou simplement les gens qui aiment aller sur YouTube et pas payer pour la musique. Et, oubliez donc, augmenter le tarif. Mais quand les gens sont habitués à payer un tarif, on leur a mis un tarif dans la tête, soit $10 par mois pour l'ensemble de la musique du monde, essaie de monter ça à 15, 20 ou 30 $ ça devient à un moment donné une question de prendre ou non le service. Paul, 4 milliards de revenus en 2017, mais en euros, mais 1,2 milliard de pertes au niveau financier. Donc tu vois un peu, puis même eux l'ont dit là, dans leur rapport à la Securities and Exchange Commission, on a plusieurs risques, dont celui de ne pas avoir d'artistes, parce qu'un jour les artistes pourraient se revirer contre Spotify, le fait que les abonnés pourraient aller ailleurs, et aussi le fait qu'on a des problèmes de liquidité, on ne génère pas d'argent. Et si on compare à d'autres entreprises qui sont entrées en bourse dans les dernières années, ben je pense à Canada Goose. Tu sais, Canada Goose, c'est quand même des vêtements. C'est quand même de la mode. C'est quand même risqué. Malgré tout, le titre est entré en bourse à $23 en mars 2017 et maintenant, on est à 42. Et on paie quand même 75 fois le bénéfice par action annuel. Donc, dans le moment, les gens pensent que Canada Goose a un potentiel de croissance effarant. Et d'un autre côté, on a Facebook qui est à un ratio, lui, de 33 fois les bénéfices. Donc, on pense que Canada Goose va avoir plus de croissance que Facebook quand on est dans le domaine du manteau. Alors, c'est quand même spécial de voir comment les investisseurs sont variables d'un domaine à l'autre. Et évidemment, je te reparle pas de David Stee qui n'infuse plus du tout, Paul. On parle vraiment d'un placement moribond maintenant, là.
Et
à
d'ailleurs,
$3 l'action.
Les actionnaires contestent la présence du nouveau directeur.
Oui, parce que M. Segal veut faire une réadministration de l'entreprise, changer le conseil d'administration et peut-être privatiser la chose, ce que les investisseurs de capital de risque voient de peut-être un mauvais œil. Donc, il y a une contestation. Le titre a baissé un peu aujourd'hui.
Alors, volet finances personnelles, les programmes d'aide aux acheteurs.
Oui, les acheteurs de maisons. Daniel Germain a fait un bon résumé aujourd'hui dans le journal Les Affaires. Tu sais, on est dans une situation très difficile pour les premiers acheteurs. Parce que, un, il y a de la surenchère. Tu viens pour acheter une maison, on est 8 dessus. On fait une offre en haut du prix demandé, puis on l'a pas parfois. Le prix est élevé. Le financement est un coût qui est à la hausse. On remarque que les taux hypothécaires sont rendus 5 ans fixes, bien négociés à 3,14, alors que le taux de gré est à 5,14%. Et là, tu as des programmes d'aide là-dedans. Oui, tu as le RAP que tout le monde connaît. Ça peut être 25 000 $ par personne. Donc, vous empruntez sur vos REER. Mais au-delà de ça, il y a des programmes qui existent. Et le problème, ce sont que les programmes t'offrent des prix maximum ou des revenus maximum qui font en sorte qu'on n'aide pas tant de monde que ça. Par exemple, si tu plafonnes à Montréal le prix d'une maison à 360 000 pour avoir accès, par exemple, à une certaine aide d'accès au logis, tu peux te dire, ben, à 360 000 à Montréal, t'es pas dans une maison, t'es pas dans une très grande maison de famille, t'es dans un 4,5 maintenant. Tu sais, dans un quartier central. Donc, tu vois un peu que entre ce qu'on veut offrir et l'aide qu'on veut apporter et la réalité, il y a un mur. Et je te parle aussi de, tu sais, le fameux crédit que je t'ai parlé la semaine passée après le budget. On veut offrir aux premiers acheteurs de maison $750 de remboursement potentiel sur les frais d'acquisition d'une maison en disant, on va encourager les gens à acheter une maison. Mais tu sais, quand ta maison coûte plus de 250 000, puis je te dis, hey, si tu achètes une maison avec ta déclaration fiscale, je vais te donner un avantage de 750 $. Mais le particulier, quand il achète sa maison, il pense peut-être même pas à sa déclaration d'impôt. Et pire que ça, à la fin de l'année, quand il fait sa déclaration de revenus, ne pense peut-être pas à réclamer le 750 $. C'est donner une idée comment ça n'influence pas la décision. Et si ça influence la décision de quelqu'un, il y a un illogisme quelque part.
Oui. Et on termine d'ailleurs, c'est tout à fait lié, avec ce sondage qui révèle que 29% des Québécois pensent acheter une maison au cours des deux prochaines années.
Et Paul, c'est un pourcentage quand même qui me fait sourciller parce que quand on y pense, tu sais, quand on achète une maison, c'est pour plusieurs années. Habituellement. Donc, s'il y a 29% des Québécois qui achètent une maison, ça veut dire qu'il y a des gens qui pensent changer une maison, donc faire l'acquisition de maison. Et on dit, évidemment, c'est un sondage, encore une fois, pour qu'on fasse parler de la compagnie, donc c'est RBC qui en parle. On dit 10% des Québécois recevront de l'aide financière de leur famille, alors que 35% au Canada pensent en recevoir. Donc, ce que l'entreprise essaie de nous faire dire derrière ça, c'est qu'on dit aux Québécois, hey, ailleurs dans le Canada, les gens prêtent à leurs enfants, donnent à leurs enfants, donnent. Faites donc pareil pour encourager le marché, pour nous aider à vendre des prêts hypothécaires.
C'est pas mal ça.
Oui, puis on fait ressortir ça. Et le deuxième point, c'est qu'on dit aux gens, hey, les gens ont confiance d'acheter une maison. Mais là, dans le fond, ce qu'on veut derrière ça en tant que banque, c'est d'encourager les gens à avoir confiance à l'industrie, confiance au marché. Mais là, on dit, attention, il y a des nouvelles conditions de marché. Si vous voulez acheter une maison maintenant, vous devez démontrer dans un prêt assuré et maintenant non assuré, donc SCHL ou non, que vous êtes capable de payer le taux de gris. C'est-à-dire, quand vous allez acheter votre maison 5 ans, il y a un taux qu'on vous propose, le gris, là, comme 5,14%. Personne paye 5,14%. Tout le monde négocie à 3 points quelque chose pour 5 ans fixe. Mais on doit démontrer, Paul, qu'on est capable de payer. Donc, ça fait en sorte que maintenant, les lois et les règlements forcent les emprunteurs à démontrer qu'ils sont capables, donc à se protéger contre eux-mêmes, à se protéger contre un endettement beaucoup trop élevé. Et d'ailleurs, ça fait partie des nouvelles règles. Alors, la question, c'est, une fois qu'on fait ça, c'est quoi l'impact? Ben, les banques, ce qu'elles veulent, c'est qu'on vous dise, dans le fond, que vous ayez un prêt assuré ou non assuré, c'est pas grave pour le marché, vous devez répondre aux mêmes conditions. Mais faites attention. Si vous avez un prêt assuré, nous, les banques, on aime ça. Parce que c'est vous qui assurez le prêt. Donc, nous, on n'a pas de risque.
Exact.
Et en plus, on peut prendre votre prêt.
Exact.
On peut le vendre sur les marchés, Paul.
Oui, oui.
Donc, on peut vendre sur les marchés, titriser votre prêt. Et maintenant, aller vous revendre de l'hypothèque. Donc, les banques canadiennes capote, Paul, excuse-moi, en bon français, sur le programme de la CHL parce que le particulier qui emprunte de l'argent subventionne les banques en lui-même assurant son prêt et si jamais la banque vous fait un prêt, elle peut le revendre après, tout ça garanti par l'ensemble des emprunteurs. Donc, la banque ne fait que passer à go et ramasser son mouton, Paul.
Très intéressant. Merci beaucoup, Pierre-Yves, et à demain.